Bonjour Philippe Lost.
Bonjour Guylaine Dubois.
Alors en avril dernier, nous avons commencé à nous interroger sur le défi démographique et alimentaire en Afrique subsaharienne et vous avez pointé finalement la question essentielle, l'agriculture africaine peut-elle suivre l'accroissement démographique? Alors on a déjà un peu dégrossi le terrain, mais il y a encore des points qu'on avait envie de relever.
Oui, je pense important de resituer ce débat sur l'agriculture et l'alimentation du continent africain dans un contexte général, je le dirais géopolitique et économique et démographique. Donc pour en rappeler l'élément essentiel, il faut avoir en tête que le continent africain subit un accroissement de population, on peut dire un peu près unique dans l'histoire, puisque au milieu du XXe siècle, le continent était à 230 millions d'habitants. En 2016, il a passé 1,2 milliard, soit une multiplication par plus que 5, pratiquement 6. Les démographes pensent qu'au milieu de ce siècle, de ce 21e siècle, le continent dépassera les 2 milliards d'habitants et représentera probablement plus de 20% de la population mondiale, voire le quart vers la fin du 21e siècle. Donc ce continent qui était très sous-peuplé encore au XXe siècle devient un continent majeur en termes de population, avec évidemment des crises politiques, une instabilité politique qui provoque des conflits. Et si on en vient à parler maintenant des questions d'agriculture et d'alimentation, on est obligé de les resituer dans ce contexte d'instabilité politique. Car si je prenais deux exemples rapidement, très récents et très dramatiques, il est clair que les problèmes souvent de difficultés du développement agricole et de crise alimentaire sont souvent liés à des causes profondes extra-agricoles. Et les deux exemples que je voulais évoquer, bon, le premier, on l'a tous en tête, c'est celui de la situation actuelle du Soudan Sud, de la Somalie, du Nigeria, etc. On s'aperçoit que ces situations de crise très graves, au Nigeria par exemple, sont liées aux conflits liés à Boko Haram. En Somalie, à une instabilité politique très ancienne, etc. Donc là, on s'aperçoit bien que les difficultés alimentaires très graves auxquelles sont confrontées ces populations peuvent être liées en partie à un déficit agricole, mais sont surtout très fortement aggravées par des situations politiques extrêmement instables et extrêmement graves. Et l'autre exemple, dont les causes sont un peu comparables, enfin non, qui ne sont pas du tout identiques, mais également tout à fait extérieures à la production agricole locale, c'est ce que l'on a appelé les grèves de la faim de 2008. Qui ont été analysés par beaucoup d'analystes très compétents, économistes, politiques et agronomes. Et on a bien compris que ces situations très graves dans certains pays d'Afrique subsaharienne, notamment au Cameroun, au Burkina Faso et autres, étaient liées à un contexte mondial de pénurie relative, hein, parce qu'il n'y avait pas vraiment pénurie, il y avait simplement diminution des stocks vivriers, des stocks céréaliers, notamment sur le marché mondial, et des phénomènes de spéculation qui ont fait que la facture alimentaire pour ces pays qui sont déficitaires, il faut le rappeler, eh bien elle est devenue beaucoup trop lourde, et pour les consommateurs, et pour les pays concernés, d'où ces émeutes.
Donc ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas traiter d'un côté l'agriculture, avoir des concepts agronomiques qui finalement seraient certainement viables et certainement pertinents. Il faut aussi prendre en considération l'aspect politique, social de la vie de ces pays. Alors faut-il pas envisager encore autre chose?
Oui, c'est bien cela. Sur le plan strictement agricole, dont je peux parler en tant qu'agronome, je suis moins compétent sur les autres questions bien sûr. Sur le plan strictement agricole, le continent africain a pratiquement réussi à suivre avec sa production agricole l'accroissement démographique. Certes, la faim existe toujours sur ce continent, on vient de le dire, mais les crises les plus graves sont dans des situations où il y a eu effectivement une aggravation forte par des conflits qui entraînent des migrations, qui déstructurent la production agricole, etc. Et les gens se retrouvent dans des camps de réfugiés où il est très très difficile d'avoir une production alimentaire et autres. Donc, ce que je voulais rappeler, c'est que bien sûr, en tant qu'agronome, je vais parler plutôt des questions de développement agricole, mais que les causes profondes qui provoquent parfois les crises les plus dramatiques sont souvent d'un autre ordre et qu'il faut bien sûr y être extrêmement attentif et qu'il faudra constamment être attentif au fait que le problème local s'inscrit dans un contexte global qui est parfois très déterminant. Et de ce point de vue, les politiques agricoles nationales ne sont peut-être pas toujours optimisées dans ces pays d'Afrique, mais il faut être très attentif au fait que les régulations internationales ne peuvent pas être appliquées brutalement à des pays pauvres, les mettant ainsi en compétition avec des pays extrêmement riches. Et donc, une des attentions particulières que l'on doit avoir, je pense, tous en tant que citoyens du monde, et notamment dans les ONG, nous y sommes très attentifs, c'est de pouvoir protéger l'agriculture de ces pays moins avancés vis-à-vis de la compétition sur le marché mondial. Et il est clair que ce combat que nous pouvons mener au niveau des organisations internationales telles que l'OMC, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce, est un combat qui doit être mené de front avec celui qui peut être mené sur le terrain pour améliorer, par exemple, les méthodes de production agricole. Je pense qu'il faut constamment relier cet aspect local aux aspects globaux, et que si on fait l'un sans l'autre, on aura des résultats évidemment très, très médiocres.
Est-ce que la révolution verte dont on a parlé pendant quelques années a été ou est encore explorée comme solution ?
Alors c'est effectivement une des grandes interrogations qu'on peut avoir en tant qu'agronome, puisque cette révolution verte de la fin du XXe siècle, disons pour faire court, a apporté tout de même des solutions indiscutables en termes de production agricole dans des continents comme le continent asiatique. On pense à l'Inde qui est devenue autosuffisante en céréales, on peut penser au Mexique, mais que malheureusement, elle a eu aussi des dégâts sur l'environnement qui ont été mis en valeur à juste titre par les agronomes. Cette révolution verte, c'était en fait utiliser un peu tous les moyens dont nous disposions, y compris des moyens assez artificiels, pour produire plus. C'est ainsi qu'on utilisait beaucoup la motorisation pour le travail du sol, on utilisait beaucoup des intrants chimiques sous forme d'engrais d'une part, de pesticides d'autre part, et surtout l'amélioration variétale, l'amélioration génétique était au cœur de cette nouvelle pratique, enfin du moins du développement de la production agricole du XXe siècle, avec également beaucoup d'actions sur la gestion de l'eau. Et je suis de ceux qui disent qu'il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, pour prendre une formule classique. J'entends par là qu'il y avait dans la Révolution verte des éléments tout à fait pertinents. Et je ne crois pas que l'on doive se passer de l'amélioration variétale, par exemple. Je pense qu'il y a des méthodes de sélection participative qui permettent d'améliorer la génétique des céréales vivrières en Afrique, qui doivent absolument être maintenues et même amplifiées. Je ne crois pas qu'il faille se passer d'une réflexion sur la gestion de l'eau, bien sûr. Donc, si l'on peut se plaindre des impacts négatifs sur l'environnement, notamment en termes de pollution des nappes et autres, ça a été beaucoup décrié, on peut aussi retenir que certaines méthodes d'amélioration de la production résultant de la révolution verte peuvent avoir cours encore au XXIe siècle et avec des effets bénéfiques pour les agriculteurs.
C'est vous qui avez choisi, Philippe Lost, la pause musicale que nous allons entendre.
Oui, alors il s'agit d'une musique malgache qui vient d'un peuple malgache qui sont les Betsimisarak. C'est une population qui est au sud et sur la côte orientale, la côte est de Madagascar. Thank you.
Toujours avec vous, Philippe Lost, sur FM Plus 91 FM en Montpellier. Nous évoquons avec vous l'agriculture africaine, l'agroéconomie.
L'agroécologie.
On pourrait dire les deux, finalement.
On peut dire les deux, c'est lié.
C'est lié, exactement. C'est un néologisme finalement très opportun là. Nous avons évolué sur une réflexion sur la révolution verte. On a vu qu'elle n'était pas totalement satisfaisante. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes, Philippe Lost, pour que cette société africaine vive d'une façon harmonieuse un développement démographique, une économie meilleure, et peut-être aussi la volonté pour eux de vivre dans leur pays? Est-ce que c'est ça qu'il y a derrière aussi?
Oui, nous rejoignons beaucoup de nos collègues africains pour penser que la révolution verte, qui n'a pas eu vraiment beaucoup d'impact en Afrique, il faut le reconnaître pour des raisons diverses qui pourraient faire l'objet d'un autre débat, cette révolution verte a présenté des défauts que l'on préférerait éviter en ce 21e siècle, fort des expériences du passé. Et je reprends volontiers la formulation de mon collègue et ami René Biaz, qui dit qu'il faut aller vers des méthodes qui permettent de produire plus sans dégrader, car on a produit avec la révolution verte, mais avec les inconvénients que l'on a déjà évoqués, et qu'il faut essayer, promouvoir un développement agricole qui n'exclut pas les petits paysans. Car on s'aperçoit que dans le phénomène de la révolution verte, ceux qui en ont été exclus sont en général les plus petits, les plus pauvres, ceux qui étaient dans les conditions les plus difficiles, par exemple des conditions d'aridité, de relief ou autres, qui expliquent que certains, malheureusement, paysans se sont trouvés complètement marginalisés dans ce mécanisme. Et c'est tout à fait ce que l'on souhaiterait éviter. L'agroécologie, qui est évidemment une démarche nouvelle pour certains, a fait couler beaucoup d'encre et notamment a provoqué parfois des débats relativement idéologiques qui ne me paraissent pas le fond du problème. L'agroécologie, ça consiste à introduire plus d'écologie, c'est-à-dire une réflexion plus biologique, dans la production agricole, c'est-à-dire rendre le système de production agricole moins dépendant des intrants extérieurs, comme on l'a évoqué déjà, et de le fonder plus sur des mécanismes biologiques liés à la gestion de l'eau, de la matière organique, de la fertilité, de la biodiversité. Et quand on dit cela, eh bien, j'ai le sentiment que ce n'est pas quelque chose de très différent de ce que j'ai connu, moi, enfant, après la Deuxième Guerre mondiale, dans la ferme de mes parents, où on utilisait des chevaux, où on valorisait le fumier, où on était dans une relation agriculture-élevage assez intense. Mais il faut reconnaître que les rendements étaient en gros le tiers de ceux qui sont faits maintenant par les successeurs de mes parents et qui utilisent évidemment des méthodes plus conventionnelles. Donc là aussi, on est obligé de reconnaître que la révolution verte a porté ses fruits en termes de productivité, mais avec les inconvénients que l'on a déjà évoqués. Donc cette agroécologie, c'est à la fois une remise en cause de la révolution verte, c'est à la fois une réaction par rapport à toutes ces questions environnementales, et cela me paraît très pertinent. Ce n'est pas évidemment novateur en tout point, puisque on essaie justement dans cette démarche également de valoriser les savoir-faire traditionnels des paysans, dans la mesure où justement ils mettent dans certains cas en évidence tous ces mécanismes biologiques d'association d'espèces, de fixation symbiotique, de synergie entre différentes cultures sur les mêmes parcelles, etc. Donc c'est réellement ce qui nous paraît plus adapté à une relance de l'agriculture dans pas mal de pays africains.
Elles sont finalement suivies, enfin, vous pouvez peut-être les prôner, mais est-ce que c'est réellement intégré dans cette vie quotidienne?
Alors, peut-être faut-il rappeler que, bon, d'abord, la situation évidemment des pays africains est tellement différente que c'est difficile de parler en termes généraux. Il y a une très grande diversité agroécologique et autres. Mais même en termes de système de production agricole, on peut peut-être dire, pour faire simple, que il y a peut-être trois grands systèmes de production agricole. C'est très schématique, hein, mais enfin, l'un c'est la production vivrière, la production paysanne vivrière, et c'est la production de très loin majoritaire dans le domaine agricole sur le continent africain, puisqu'elle représente au moins 70% voire les trois quarts de la production agricole. Ensuite, on peut parler des cultures dites industrielles, des cultures d'exportation de base, qui sont des cultures telles que l'arachide, le coton, le café, le thé, le cacao, etc., qui sont des cultures qui sont pratiquées essentiellement pour procurer un revenu aux producteurs de ces produits agricoles, mais qui pour la plupart sont exportées. Et le troisième créneau, qui est encore plus étroit, c'est réellement les cultures à très haute valeur ajoutée, dans lesquelles on retrouve assez souvent du bio, voire du bio équitable. Mais on peut penser aux fleurs coupées, on peut penser à certains légumes frais, etc.
À des épices ?
À des épices, voilà. La vanille, par exemple, à Madagascar, des choses de cette nature. Donc, il est certain que ces différents systèmes de production ne sont pas gérés de la même façon. Et que mon point de vue est que, sans négliger du tout les autres, la priorité absolue est à donner à la production vivrière. Il faut réellement que l'agriculture vivrière ait toute sa place au cœur des problématiques de développement en Afrique subsaharienne, parce que il faut peut-être rappeler aussi que dans beaucoup de ces pays, les deux tiers de la population sont encore dans les systèmes agricoles, sont encore dans la ruralité, et que même si le phénomène d'exode rural s'accentue, c'est en général plus de la moitié de la population qui dépend encore de la production agricole.
Mais cela ne peut se faire que s'il y a une dynamique politique aussi prise en charge peut-être par le gouvernement qui incite à faire ce genre de politique d'agriculture vivrière.
Il est certain que ça ne peut réellement se développer assez vite que si les politiques agricoles nationales sont appropriées et évitent, par exemple, des démarches tout à fait néfastes, telles que, dans certains pays, on l'a vu, les subventions aux engrais chimiques, les subventions aux pesticides, l'ouverture des frontières à des tas de produits plus ou moins licites, etc. Donc, il est certain qu'il faut un engagement fort des pays dans ce sens pour trouver les moyens de favoriser cette nouvelle forme de production. Il faut aussi agir, moi c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher, il faut aussi agir vigoureusement et efficacement sur la formation des techniciens sur le terrain. À chaque fois que je retourne sur le terrain, je suis frappé de voir ce que la formation des agronomes, des techniciens agricoles, des techniciens d'élevage, des assistants, etc. a été une formation extrêmement conventionnelle, et que dans certains cas, nous qui essayons d'avoir maintenant un autre discours, nous nous sentons en décalage par rapport à des gens que nous avons formés, certains diraient déformés, mais qui sont restés sur une approche très conventionnelle de l'agriculture et du développement dans leur propre pays. Donc c'est cet ensemble, c'est toute cette mentalité de l'encadrement de l'agriculture, bien sûr, des politiques agricoles, des organisations de producteurs. Et je serais tenté de dire que de ce point de vue, on a le sentiment que c'est la base qui est la plus sensible à ce discours, peut-être parce qu'ils n'en sont pas si éloignés, c'est-à-dire que les paysans sur le terrain sont souvent des gens qui sont encore dans des approches, j'allais dire, très biologiques, agroécologiques certainement, voire biologiques, et que dans certains cas, ce qu'il faut simplement, c'est les aider à perfectionner leur méthode. On peut penser, pour prendre un exemple précis, que l'introduction d'une nouvelle technique de travail du sol, je pense aux haies mécanisées au Burkina Faso par exemple, l'introduction d'une nouvelle légumineuse dans l'assolement, légumineuse qui, comme on le sait, fixe de l'azote par une fixation symbiotique, donc naturelle. Azote qui, étant naturellement fixé dans le sol, peut permettre ensuite d'avoir une céréale plus productive sans y apporter d'engrais chimiques. On peut penser aussi à des mécanismes biologiques de défense des cultures, grâce à des associations, grâce à des rotations appropriées, en évitant justement la monoculture intensive qui, elle, est la source souvent de problèmes phytopathologiques graves. Donc la solution n'est pas d'avoir une production, une monoculture intensive fragile que l'on va traiter à grands frais et avec des produits chimiques qui peuvent avoir des impacts très négatifs sur l'environnement. La solution est plutôt de revenir à des méthodes plus naturelles de gestion de cette biodiversité agricole pour, par des méthodes biologiques, produire mieux et si possible plus. Il n'en reste pas moins que, personnellement, je ne suis pas un ayatollah du bio, même si je pense que tous les systèmes de production doivent évoluer. Et je ne vois pas à quel titre on se priverait d'un engrais chimique qui permet de lever une carence. Je suis au Burkina, je constate que dans certaines régions, il y a une carence en phosphore, par exemple, qui peut être très pénalisante pour la production agricole. Il se trouve qu'il y a des phosphates naturels dans le pays. Je pense qu'il ne faut absolument pas s'interdire d'améliorer la production agricole grâce à des apports évidemment ciblés et très modérés pour permettre aux paysans justement de ne pas souffrir de déficits de production trop graves. Et de ce point de vue-là, je suis frappé que sur le terrain, les paysans sont des gens qui n'abusent jamais des engrais parce qu'ils en connaissent le prix, mais qui en revanche en reconnaissent la valeur en disant mais que pourrions-nous faire sans un minimum d'engrais chimiques ? Car ils ont le sentiment que c'est parfois grâce à ces très modestes apports, qui n'ont rien à voir avec ceux du bassin parisien, hein, ces très très modestes apports complémentaires qui leur permettent, disent-ils eux-mêmes, de nourrir leur famille. Donc je crois que par rapport à cela, il faut être attentif à des solutions qui peuvent être parfois une combinaison. Par rapport au travail du sol aussi, je pense qu'il y a des choses intéressantes à observer sur le terrain. Certains paysans sont restés dans des zones relativement humides, de Guinée par exemple, ou d'autres pays, Mali Sud, très attachés au labour. Et leur dire « il faut travailler sans labour », ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce que s'ils labourent, c'est qu'ils ont une bonne raison de labourer. Et cette raison, c'est que dans ces environnements relativement humides, la pression de ce qu'on appelle les adventices, qu'on appelait naguère les mauvaises herbes, peut être telle que ça contrarie beaucoup leur production principale, que ce soit de l'arachide, du maïs ou du sorgho. Et donc, leur solution à eux, c'est de laisser pousser ces adventices, de les retourner ensuite avec la charrue, ce qui provoque d'ailleurs un enrichissement du sol, et de cultiver leur maïs après ce labour. Et ils ne comprennent absolument pas qu'on puisse leur conseiller de ne pas labourer. Donc, c'est en cela que je dis, l'agriculture est diverse, et les solutions seront elles-mêmes extrêmement diverses.
Merci beaucoup Philippe Lost. On se retrouve bientôt pour continuer à parler de l'Afrique et de l'agronomie.
Avec grand plaisir, je pense que le sujet n'est pas clos, loin s'en faut.
Au revoir.
Merci.